السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، nous poursuivons l'étude du livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah رحمه الله تعالى العبودية. La servitude. Ce sujet, qui est la sagesse pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a tous créés, pour laquelle il a envoyé l'ensemble des messagers sur eux, il a révélé al-ubudiyya et al-ibada, c'est le but pour lequel Allah nous a tous fait exister. Il convient donc de se concentrer et d'accorder à ce sujet la plus haute importance, espérant de la part d'Allah qu'il nous guide à la connaissance, à l'application, à la transmission, ainsi qu'à l'endurance. Wala hawla wala quwwata illa billah wa hasbunallah wa ni'mal wakil. L'auteur Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit: wa qad na'atahu Allah bil 'ubudiyyati fi akmal ahwali fa qala fil isra سبحان الذي أسرى بعبده ليلا الآية وقال في الإيحاء فأوحى إلى عبده ما أوحى وقال في الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا وقال في التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله الآية فالدين كله داخل في العبادة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrit par la servitude dans ses situations les plus complètes et les plus élogieuses. C'est-à-dire que lorsqu'on médite le Coran, on voit qu'Allah azza wa jal a appelé, a nommé son prophète Mohammed alayhi salatu wassalam serviteur. Quand est-ce qu'il l'a nommé serviteur? Dans ses situations, dans ses états les plus élogieux et les plus parfaits. Il nous mentionne ici al-Isra, le voyage nocturne. Le voyage nocturne, ce grand miracle qu'Allah azza wa jal lui a accordé au début de la sourate, sur la traduction des sens du verset. Exempt soit celui qui fit voyager son serviteur de nuit. Il l'appelait son serviteur. Deuxièmement, lors de la révélation. La traduction dans Sourate An-Najm, il a révélé à son serviteur. Il a révélé à son serviteur. Troisièmement, fi da'wa, lors de la prédication. Wa annahu lamma qama 'abdullah. Et lorsque le serviteur d'Allah s'est levé. Yad'u. Il prêche. Quatrièmement, fit tahaddi, lorsqu'il a lancé un défi aux polythéistes, na'am, de venir avec un Qur'an ou avec une sourate semblable au soir du Qur'an. Si vous êtes dans le doute de ce qui a été révélé, ala abdina, sur notre serviteur, Venez donc avec une sourate similaire. Ainsi, on retient que dans les stations les plus nobles, les plus élogieuses, les plus complètes et parfaites du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, Allah tabaraka wa ta'ala l'a nommé son serviteur, serviteur d'Allah, notre serviteur. Cela prouve que le rang le plus élevé, le plus noble est le fait d'être un serviteur d'Allah. Et deuxièmement, on tire de tout cela qu'au plus le serviteur concrétise la servitude, au plus il complète sa personne, son être et se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la raison pour laquelle le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam est la créature la plus parfaite d'Allah, car il a concrétisé la servitude. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala poursuit et dit: فالدين كله داخل في العبادة. La religion tout entière la religion dans son entièreté entre dans l'adoration. Lorsqu'il dit cela, il continue la réponse au questionneur, parce que au début du livre, il y avait plusieurs questions, n'est-ce pas? Parmi celles-ci, وَهَلْ مَجْمُوعُ الدِّينِ دَاخِلٌ فِيهَا أَمْ لَا. Est-ce que toutes les parties composantes de la religion entrent dans la servitude, dans l'adoration ou non? Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit que toute la religion rentre dans l'adoration. Puis il va prouver cela par le hadith Jibril. Na'am. Par le hadith, en commençant par la mention du célèbre hadith de la venue de Jibril au prophète Mohammed alayhi salat wa salam, le hadith de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, rapporté par l'imam Muslim. فَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ جِبْرِيلَ لَمَّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سُورَةِ أَعْرَابِيِّينَ وَسَأَلَهُ عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ فَمَا الْإِيمَانُ قال أن تؤمن بالله وملائكتي وكتبي ورسلي والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيري وشري قال فما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ثم قال في آخر الحديث هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم فجعل هذا كله من الدين لوتر رحمه الله تعالى a mentionné comme preuve quant au fait que toutes les parties composantes de la religion rentraient dans l'adoration et sa définition, le hadith Jibril. Dans le hadith, Jibril alayhi salam est venu sous l'apparence d'un bédouin et a interrogé le prophète alayhi salat wa salam au sujet de la religion. Quant à l'islam, le prophète alayhi salat wa salam l'a défini en disant: c'est le fait d'attester qu'il n'y a point de divinité méritant l'adoration si ce n'est Allah, que Mohammed est le messager d'Allah. Accomplir la prière, s'acquitter de la zakat, jeûner Ramadan et accomplir le pèlerinage à la maison si tu en as la capacité. Lorsqu'on lui a dit qu'est-ce que la foi, il a répondu, c'est le fait de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, en la résurrection après la mort et le fait de croire en la prédestination favorable et défavorable. Quand l'a interrogé sur l'excellence, il a dit c'est le fait d'adorer Allah comme si tu le voyais. Et certes, si tu ne le vois pas, lui te voit. À la fin du hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, c'est-à-dire aux compagnons, voici Jibril qui vous est venu, vous enseigner votre religion. C'est-à-dire que tout cela est appelé religion. Et l'islam, ce sont les œuvres apparentes reposant sur 5 piliers. Ensuite, al-iman, la foi, ce sont les œuvres intérieures reposant sur 6 piliers. Ensuite, al-ihsan, l'excellence, qui est le fait de parfaire l'islam et l'iman. Al-ihsan, c'est le fait de concrétiser la partie extérieure de l'islam et la partie intérieure de l'islam qu'on appelle al-iman. Celui qui parfait ça, il est au degré du ihsan. Eh ben, tout cela, la croyance, qu'on est, yani, la foi, qu'on étudie dans les livres de croyance, les piliers de l'islam, qu'on étudie dans les livres de fiqh, de législation, tout cela est appelé comment? Religion. Tout cela est appelé religion. Barakallah fikum. Après ça, et ce hadith, les savants l'ont surnommé Umm Sunnah. Ce hadith, les savants l'ont surnommé « Umm Sunnah » car tout ce qu'il y a dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam retrouve sa base dans ce hadith. Retrouve sa base dans ce hadith. Na'am. Après cela, l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit une deuxième preuve, il nous mentionne une deuxième preuve quant au fait que la religion tout entière entre dans l'adoration. Et là, il va donner la définition de l'adoration étymologiquement parlant, linguistiquement parlant, puis dans la religion. ويقال يدين الله ويدين لله. C'est-à-dire que c'est soit لازم soit متعدي. أي يعبد الله ويطيعه ويخضع له. فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له. والعبادة أصل معناها الذل أيضا. يقال طريق معبد إذا كان مذللا قد وطئته الأقدام. لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، فهي تتضمن غاية الذل لله تعالى بغاية المحبة له. Ici, il nous mentionne l'adoration et sa définition. Quel est le but? Le but est de montrer le lien et la corrélation dans le sens étymologique qu'il y a entre ad-din et al-ibada, la religion et l'adoration. Tous deux ont pour base la soumission et le rabaissement. Tous deux ont pour base la soumission et le rabaissement. Le din renferme le sens du rabaissement et de l'humiliation. Il renferme le sens du rabaissement et de l'humiliation. Lorsqu'on dit en arabe « dintuhu fadana ay dhallaltuhu fadalla », je l'ai fait se soumettre, il s'est donc rabaissé. Et on dit « yadinu Allah », il se rabaisse à Allah, il adore Allah de cette manière. « Wa yadinu lillah », il emprunte un chemin vers Allah en se soumettant à lui. Que veut dire « yadinu Allah » wa yadinu lillah » ? C'est-à-dire, il adore Allah, lui obéit et se rabaisse à lui. En conclusion, فَدِينُ اللَّهِ عِبَادَتُهُ وَطَاعَتُهُ وَالْخُضُوعُ لَهُ. دِينُ اللَّهِ, la religion d'Allah, c'est quoi en réalité? C'est son adoration, son obéissance et le fait de se rabaisser à lui. Ainsi, on comprend que l'adoration, ou plutôt, ça c'est pour la religion. On a compris que c'est la soumission, le rabaissement. Et l'ibada, le terme ibada, adoration, il nous dit qu'il a également le sens du rabaissement, de l'humiliation. Aussi, pourquoi il dit aussi? C'est-à-dire tout comme le sens du mot ad-din, la religion. On dit un chemin rabaissé, humilié, parce que les gens ont marché dessus. Parce que les gens ont marché dessus. Néanmoins, l'adoration qui est adorée, pardon, l'adoration qui est ordonnée, comprend en plus du sens de l'humiliation, le sens de l'amour. Ici, Ibn Taymiyyah nous dit, attention, on a compris le sens de l'adoration dans la langue arabe, cependant, dans la religion, il y a une notion en plus de du rabaissement et de l'humiliation. Il s'agit de l'amour. Il s'agit de l'amour. Fahi, donc, l'adoration dans la religion, Shar'an, comprend la perfection de la soumission, ou bien du rabaissement, de l'humiliation, la perfection de la soumission, ou bien disons la perfection de l'humiliation et du rabaissement à Allah le Très-Haut, ainsi que le paroxysme de l'amour, ainsi que le fait de lui donner la perfection de l'amour. Voici ici une définition de l'adoration. La perfection de l'humiliation et du rabaissement avec la perfection de l'amour. S'il n'y a que l'humiliation sans l'amour, ça n'est pas de l'adoration. S'il y a que de l'amour sans humiliation et rabaissement, ça n'est pas non plus de l'adoration. C'est de l'adoration. Pour que ce soit de l'adoration, il faut unir entre les deux. L'humiliation, le rabaissement et l'amour. L'humiliation, le rabaissement et l'amour. Naam. On a au début du livre mentionné une définition, et ici on en mentionne une autre. Ici on en mentionne une autre. Cette définition ne contredit pas la première. Si ce n'est que cette définition, c'est du point de vue de l'état de l'adorateur et de sa description. D'accord ? C'est du point de vue de l'état de l'adorateur et de sa description. Alors que la première définition, c'est du point de vue de l'action elle-même. C'est du point de vue de l'action elle-même. Naam. Barakallahu fikum. Et dans son poème, le grand savant Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala disait: wa ibadatu ar-rahmani ghayatu hubbihi ma'a dhulli 'abidihi huma qutban. Ibn Qayyim disait: et l'adoration du tout miséricordieux est le sommet de son amour accompagné de l'humilité de son adorateur. Ce sont là les deux pôles. L'adoration du tout miséricordieux, c'est le paroxysme de l'amour, ainsi que son humilité, ainsi que l'humilité à lui. Ce sont là les deux pôles. Barakallahu fikum. Donc Ibn Qayyim a défini l'adoration de la sorte. Barakallahu fikum. فَإِنَّ آخِرَ مَرَاتِبِ الْحُبِّ هُوَ التَّتَيُّمُ وَأَوَّلُهُ الْعَلَاقَةُ لِتَعَلُّقِ الْقَلْبِ بِالْمَحْبُوبِ ثُمَّ الصَّبَابَةُ لِانْصِبَابِ الْقَلْبِ إِلَيْهِ ثُمَّ الْغَرَامُ وَهُوَ الْحُبُّ اللَّازِمُ لِلْقَلْبِ ثُمَّ الْعِشْقُ وَآخِرُهَا التَّتَيُّمُ يُقَالُ تَيْمُ اللَّهِ أَيْ عبد الله فمتيم المعبد لمحبوبه. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, après cet exposé, il nous dit que l'amour a plusieurs degrés. Il nous dit que l'amour a plusieurs degrés. Et le dernier de ces degrés est celui qu'on appelle at-tatayyum. Et at-tatayyum, Naam, il nous l'expliquera à la fin, je traduis d'abord. Le dernier degré, c'est Tayyum. Le premier, c'est l'alaqa, c'est le lien. C'est le fait que le cœur du serviteur s'accroche à la chose qu'il aime. On l'appelait l'alaqa, le lien, parce qu'il y a un lien, ou plutôt parce que le cœur se lie et est épris pour l'autre. Le deuxième niveau, on l'appelle as-sabab, parce que le cœur penche et converge vers l'autre. Ensuite, on a el-gharam. C'est le fait que l'amour ne se sépare plus du cœur. Ensuite, on a el-ishq, l'amour passionnel. Et le dernier niveau, c'est at-tatayyum. On dit tayyimullah, c'est-à-dire le serviteur d'Allah. C'est quand ça atteint le niveau de servitude. Il devient l'esclave, le serviteur de. El-Mutayyam, c'est le serviteur de son bien-aimé. Wa man khada'a li-insanin ma'a burdihi lahu, la yakunu 'abidan lah. Wa law habba shay'an wa lam yakhda' lah, lam yakun lahu 'abidan. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala insiste sur le caractère indispensable d'unir entre l'amour et le rabaissement, l'humiliation, pour que ce soit de l'adoration. Ainsi, il nous dit, si l'individu s'humilie sans, yani, mais si l'individu s'humilie tout en détestant la chose ou la personne, il ne sera pas son adorateur. De la même façon, s'il aime une chose sans s'y rabaisser, eh ben, il ne sera pas son adorateur. كَمَا قَدْ يُحِبُّ وَلَدَهُ وَصَدِيقَهُ. Tout comme la personne peut aimer son enfant et son ami, mais on ne dit pas qu'il l'adore. On ne dit pas qu'il les adore. وَلِهَذَا لَا يَكْفِي أَحَدُهُمَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى بَلْ يَجِبُ وَيَكُونَ اللَّهُ أَحَبَّ إِلَى الْعَبْدِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَيَكُونَ اللَّهُ أَعْظَمَ عِنْدَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ بَلْ لَا يَسْتَحِقُّ الْمَحَبَّةَ وَالذُّلَّ التَّامَّ إِلَّا اللَّهُ. Pour cela qu'il n'est pas suffisant d'avoir une des deux parties pour au sujet de l'adoration d'Allah. Le rabaissement, l'humiliation ne suffit pas, l'amour ne suffit pas. Il faut les deux en même temps, les deux ensemble. Plus encore, on a l'obligation d'aimer Allah plus que toute chose. Il est obligatoire qu'Allah soit plus aimé auprès du serviteur que toute autre chose. Et qu'Allah Azzawajal soit plus immense auprès de lui que toute autre chose. Et avoir la conviction ferme que nul ne mérite cette adoration amada à laquelle on lie le rabaissement et la soumission totale sauf Allah. Nul ne mérite cela si ce n'est Allah. Tabaraka wa ta'ala. Écoutez bien la grande règle que nous donne Ibn Taymiyyah rahimahullah. Ibn Taymiyyah rahimahullah. Wa kullu ma uhibba li ghayri Allah fa mahabbatuhu fasida. Wa ma uzzima bi ghayri amri Allah kana ta'zimuhu batila. Ça, c'est une grande règle qu'on va retenir. Voici ici une grande règle qu'on va retenir. Quelle est cette règle? Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit: "Wa kullu ma uhibba li ghayri Allah fa mahabbatuhu fasida." Toute chose qui est aimée pour autre qu'Allah, sans lien avec Allah, sans qu'Allah nous ait ordonné ou nous ait montré qu'il aime cela, toute chose qui est aimée en dehors d'Allah, ou disons pour autre qu'Allah, son amour est caduque. Son amour est caduque. Il est nul. Et toute chose qui est vénérée en dehors de ce qu'Allah a ordonné, sa vénération est nulle et caduque. Que veut dire cette parole? Que veut dire cette parole? Ici, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous fait comprendre que le cœur du croyant et l'amour qu'il donne doit suivre l'amour qu'il porte à Allah. Il aime les choses, il les aime pour Allah. Il aime le prophète parce qu'Allah l'aime. Il aime la religion parce qu'Allah l'aime. Il aime les noms d'Allah et ses attributs parce qu'Allah aime cela. Naam. Il aime les sahaba, il aime les pieux. Il aime les vertueux parce qu'Allah aime cela. Vous avez compris? Son amour, son cœur penche là où Allah Azza wa Jal a mentionné son amour. La deuxième partie de cette parole est tout ce qui est immensifié sans qu'Allah ne l'ait ordonné, sans que ça n'entre dans l'ordre d'Allah, alors cette vénération est nulle. Cette vénération est nulle. Il est triste de constater chez certains de nos frères que lorsqu'ils parlent de personnes éloignées, égarées, comme certains rappeurs, comme certains sportifs ou autres, tu sens de la vénération dans leurs propos, tu sens un penchant du cœur vers eux, comme ils aimeraient être à leur place parce qu'ils ont une soi-disant notoriété ou des moyens financiers et ou bien qu'ils sont adulés. Subhanallah. Toute chose qu'Allah n'a pas à laquelle il n'a pas accordé d'importance, tu ne dois pas la vénérer. Ça, c'est une faiblesse du cœur, une faiblesse de foi, une faiblesse de tawhid. Ou parce que la personne est éloquente, ou bien parce qu'elle est sur les réseaux, le cœur commence à pencher, à faire ses éloges, en oubliant que c'est un exemple déplorable pour la communauté, et en oubliant qu'il sème son venin dans les oreilles et dans le cœur des membres de la communauté, de nos enfants et autres. Attention, ce cœur, c'est la citadelle, c'est la forteresse du musulman. Il ne doit pas laisser pénétrer tout et n'importe quoi. Barakallahu fikum. La perfection de la foi ne s'atteint que lorsqu'on aime les gens ne les aimant que pour Allah. Que lorsqu'on donne ne donnant que pour Allah. Que lorsqu'on retient ne retenant que pour Allah. Barakallahu fikum. Il n'est pas interdit d'aimer les choses de ce bas monde. Mais là où ça devient problématique, c'est lorsque notre amour pour les choses de ce bas monde prend le dessus sur l'amour d'Allah, sur l'amour de son messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'Allah azza wa jal, dans le verset qu'on appelle Ayatul Mahabbi Thamaniya, le verset des 8 choses aimées, c'est-à-dire naturellement, tout le monde aime ces 8 choses. قال الله تعالى
قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. سورة التوبة.
الله سبحانه وتعالى nous mentionne 8 choses. Allah Azza wa Jalla nous mentionne 8 choses. Dit, si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos proches, vos richesses que vous acquérez, votre commerce dont vous craignez la perte et vos demeures vous sont plus chères. Donc ces 8 choses-là, ce sont les choses que tout le monde aime naturellement. Où est le problème? Si ces choses-là vous sont plus chères qu'Allah et son messager, et l'effort dans sa voie, alors attendez jusqu'à ce qu'Allah apporte son commandement, c'est-à-dire ça, qu'il va vous punir si vous ne changez pas, vous ne vous corrigez pas. Et Allah ne guide pas le peuple pervers. Ici, on voit clairement que ça n'est pas l'amour de ces choses-là qui est problématique. Père, enfant, frère, épouse, proche, richesse, commerce, demeure, tout cela est aimé par l'ensemble des gens. Là où c'est problématique, c'est si cet amour prend le dessus sur l'amour d'Allah et de son messager. Là, la personne tombe dans le péché. Et on pourrait s'interroger sur la juxtaposition ici dans l'amour entre Allah et son messager. On a cité Allah à côté de son messager dans cet amour. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala répond à cette interrogation. فجنس المحبة تكون لله ولرسوله كالطاعة فإن الطاعة لله ولرسوله. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit que l'amour ici, c'est el jins, c'est l'espèce, c'est la catégorie. Quant à la catégorie d'amour, eh ben, on donne cela à Allah et on donne cela à son messager. Tout comme l'obéissance, on donne cela à Allah, on donne cela à son messager. On peut dire, on obéit à Allah, on peut dire on obéit au messager. On peut dire on aime Allah et le messager. Ça n'est pas problématique. Ici, on ne rend pas l'un égal de l'autre. Mais on mentionne que cette catégorie, on la donne à Allah selon la part qu'il mérite, c'est la part adoration et servitude. Et on donne la part au messager, c'est la part qui lui revient de droit, et il n'y a pas dedans l'adoration. Tout simplement. Tout comme on obéit à Allah et son messager, mais l'obéissance du messager, c'est mettre en pratique ses ordres, délaisser ses interdits. Quant à l'obéissance d'Allah, c'est cela, mais avec l'adoration et la servitude. Barakallah fikum. Donc, c'est valable pour l'amour, c'est valable pour l'obéissance, c'est valable aussi pour l'agrément. Il nous dit, wal irda'a lillahi wa li rasuli. Il mentionne le verset, wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurdouhum. Allah et son messager sont plus à même à ce qu'on recherche leur satisfaction. Wal ita'a lillahi wa li rasuli. Et le fait qu'Allah et son messager dispensent, le fait qu'Allah et son messager donnent, وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. S'ils avaient été satisfaits de ce qu'Allah et son messager ont donné. Naam. Donc, lorsqu'il s'agit de la catégorie de la chose qui ne renferme pas une adoration pure et une servitude totale, on peut le mentionner pour Allah et son messager lorsqu'on a des textes semblables. Mais, dès lors qu'il s'agit de l'adoration, on sait que l'adoration n'est le droit que du créateur, maître, dominateur, suprême, gérant de la terre, de l'univers, de ce qu'il y a dans les cieux et de ce qu'il y a dans les terres, de ce qu'il y a dans les cieux et ce qu'il y a sur terre, comme dans ce qu'il y a dans les mers. Tabaraka wa ta'ala. L'adoration n'est pas le droit du serviteur d'Allah et de son messager. Ça n'est que le droit de la seule divinité qui nous a tous créés et fait exister, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala poursuit et dit: "Wa amma al-ibada wa ma yunasibuha min at-tawakkul wal-khawf wa nahwi dhalik fala takunu illa lillahi wahda. Kama qala ta'ala: Qul ya ahla al-kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum alla na'budu illa Allah
ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
Quant à l'adoration et ce qui s'y rapporte, comme le fait de placer sa confiance, le fait d'avoir peur, ainsi de suite, cela n'est exclusivement que pour Allah. Cela n'est exclusivement que pour Allah. Comme Allah le Très-Haut dit, sur la traduction des sens Mada du verset, dit « Ô vous les gens du livre, venez à une parole, c'est-à-dire à une phrase qui est là, « Ilaha illallah », venez à une parole équitable entre vous et nous, entre nous et vous, qui consiste à n'adorer qu'Allah et à ne rien lui associer. Et ne pas se prendre mutuellement en seigneur en dehors d'Allah. S'ils se détournent, dis-leur ou dites, soyez témoins que nous sommes musulmans, nous sommes soumis. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam d'appeler les gens du livre et de les inviter à une parole où il n'y a aucune transgression, où il y a l'équité entre les différents parties. On revient tous à l'adoration du Seigneur des mondes. On revient tous à l'adoration du Seigneur des mondes. Donc on comprend quoi ici? On délaisse le shirk, pourquoi? Parce que le shirk, c'est pas juste. Le shirk, c'est la pire des abominations et des injustices. Allah dit dans Sourate Al-Luqman, Inna shirka la zulmun azim. Certes, le polythéisme est une énorme injustice. Le shirk, c'est quoi? Le shirk, c'est de prendre le droit d'Allah. Ce dans quoi il a l'exclusivité, comme la seigneurie, l'adoration, la perfection dans les noms, les attributs. Et d'attribuer cela à la créature, c'est la pire des injustices. Inna shirka la zulmun azim. C'est le seul péché qu'Allah ne pardonne pas. C'est le péché qui fait entrer en enfer. C'est le péché qui annule toutes les œuvres. Allah Azza wa Jalla nous dit dans son livre, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Il t'a été révélé à toi ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, c'est-à-dire parmi les prophètes et les messagers. Si tu nous donnes des associés, assurément, toutes tes œuvres seront vaines. C'est plutôt Allah, c'est-à-dire uniquement, qu'il faut adorer et soit donc du nombre des reconnaissants. Allah Azza wa Jal nous dit, إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ. Certes, quiconque associe Allah, il lui interdit le paradis. Sa destination sera l'enfer. C'est-à-dire, il n'a pas d'autre destination si ce n'est l'enfer. Et pour les injustes, nul secoureur. Voici la dangerosité et les conséquences dévastatrices du polythéisme qui consiste à donner un égal à Allah, qui consiste à prendre le droit d'Allah et le donner à autre qu'Allah, qui consiste à adorer autre qu'Allah Azza wa Jal, alors qu'il est le seul à nous avoir créés. Quant à l'adoration, on n'a pas dit Allah et son messager. On a dit Allah uniquement. On a dit ne pas faire de shirk dans quoi que ce soit. On donne pas d'égal à Allah, ni d'associé. Furent-ils un ange rapproché ou un messager ou un prophète envoyé? Non. Wa qala ta'ala, wa law annahum radu ma atahum Allah wa rasuluhu wa qalu hasbuna Allah. Sayu'tina Allah min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allah raghibun. فالإيتاء لله والرسول كقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وأما الحسب وهو الكافي فهو الله وحده كما قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقال تعالى
يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين الله. ومن ظن أن المعنى حسبك الله والمؤمنون معه فقد غلط غلطا فاحشا، كما قد بسطناه في غير هذا الموضع. ابن تيمية رحمه الله تعالى nous montre des versets où, dans la catégorie du terme, on peut dire Allah et son messager. Et d'autres, dès lors qu'il s'agit de servitude et d'adoration, on ne donne que cette chose-là à Allah. Et à nul autre que lui, ni même le messager, qui est la mère des créatures d'Allah. Dans Sourate At-Tawbah, la traduction des sens approximatif, et s'ils avaient été satisfaits de ce qu'Allah et son messager leur ont donné. Voyez-vous ici, pour le don, on a cité Allah et son messager. Naam. Et dit, et s'ils avaient dit, Allah nous suffit et il nous accordera, et Allah nous accordera de ses grâces, ainsi que son messager. Et c'est vers Allah que nous dirigeons tout notre désir. Il est demande. Avec amour, avec désir. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Que le don, la donation, on a dit Allah et son messager. Comme dans Sourate Al-Hashr, et ce que le messager vous donne, prenez-le, ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Ce qu'il vous donne, c'est-à-dire dans toutes les parties de la religion. Ibn Sa'di, rahimahullah ta'ala, a dit, وَهَذَا شَامِلٌ لِأُصُولِ الدِّينِ وَفُرُوعِهِ ظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ. Cela englobe toutes les bases de la religion et ses branches. Tout ce qui est apparent comme ce qui est caché. Et tout ce que, avec quoi nous est venu le messager, il est obligatoire au serviteur de le prendre et de le suivre. Et il est interdit de le contredire en cela. Et le texte venant du messager a le jugement religieux de la même manière que le texte venant d'Allah le trait. Il n'est permis à personne, personne n'a une excuse quant au fait de le délaisser. Il n'est pas permis de faire devancer la parole de qui que ce soit sur sa parole. Naam. Donc, quand il s'agit du don, du vivant du prophète alayhi salatu wassalam, bien sûr, on dit ce qu'Allah et son messager ont donné, et on dit ce que le messager d'Allah vous donne. Naam. Par contre, dès lors qu'on a parlé de al-hasbu, la suffisance, là, c'est uniquement pour Allah. Le seul qui peut te suffire, c'est Allah Azza wa Jal. Naam. Puis on a mentionné dans Sourate Ali Imran, la traduction, on mentionne ici la traduction des sens du verset. Ceux à qui les gens ont dit, des personnes se sont liées et liguées contre vous. Redoutez-les donc. Cela ne fit qu'augmenter leur foi et ils dirent, Allah nous suffit et quel bon garant. Ils dirent, Allah nous suffit et quel bon garant. Voyez-vous ici, lorsqu'il s'agit de la suffisance, on a mentionné Allah uniquement. Car on donne à chacun son droit. Ibn Taymiyyah explique, il dit, c'est-à-dire, Allah, le verset d'après, dans Sourate Al-Anfal, يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Au messager, ou plutôt au prophète, Allah te suffit ainsi que ceux qui te suivent parmi les croyants. Que veut dire ce verset? C'est-à-dire que la suffisance t'est donnée par Allah, elle est aussi donnée à ceux qui te suivent parmi les croyants. Yani, te suffit toi, et te suffit ceux qui te suivent parmi les croyants. Je reprends, te suffit toi, ainsi que ceux qui te suivent parmi les croyants, Allah. Donc, celui qui suffit à l'ensemble, au prophète, à ceux qui le suivent, c'est Allah. Et le sens n'est certainement pas ce que certaines personnes auraient pu penser. Allah te suffit et les croyants te suffisent. Non, là on donne un égal à Allah, là on donne des propriétés d'Allah à la créature. Ça c'est une erreur gravissime. Comme cela a été expliqué de manière détaillée dans d'autres livres, notamment Minhaj al-Sunnah d'Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Allah nous dit, alayhi sallahu bi kafin abda, n'est-ce pas qu'Allah suffit à son serviteur, dans Suratu Az-Zumar. Donc on fait attention. Il y a des termes qu'on peut utiliser pour Allah et son messager. Il y a des termes qui rentrent dans l'adoration, la servitude
il est interdit de les attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car il y a des droits qui sont donnés à Allah et aussi aux messagers, comme l'amour et autres. Et il y a des, mais ça sera différent. Un, c'est l'amour en Allah. L'autre, c'est l'amour d'Allah. Mais certainement pas avec Allah. Ça, c'est du shirk. Ensuite, il y a des droits qui sont spécifiques à Allah. L'adoration, la servitude. Barakallahu fikum. Après tout cela, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit, wa tahriru dhalik, anna al-abda, yuradu bi al-mu'abbad alladhi 'abbadahu Allah wa dhalla lillah wa dabbarahu wa sarrafa fa bi hadha al-i'tibar fal-makhluqun kulluhum 'ibadullah al-abrar minhum wal-fujjar wal-mu'minun wal-kuffar wa ahlu al-jannati wa ahlu an-nar إذ هو ربهم كلهم ومليكهم ولا يخرجون من مشيئتي وقدرتي وكلماتي التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر فما شاء الله كان وإن لم يشاءوا وما شاءوا إن لم يشأه إن لم يشأه لم يكن كما قال تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Ibn Taymiyyah رحمه الله تعالى nous dit وتحرير ذلك, c'est-à-dire concernant le sens du terme serviteur. Il y a deux sens possibles selon le contexte. On dit العبد dans le sens المعبد, le serviteur dans le sens celui qui est assujetti et rabaissé à Allah Azza wa Jal sous son commandement, sous sa, il œuvre dans sa seigneurie, il ne peut pas sortir de son commandement et de son décret. Ça, c'est le premier sens. Serviteur dans le sens, il est assujetti à Allah. Il est sous sa volonté suprême. C'est son serviteur et Allah est son seigneur, il ne peut sortir de son commandement. Le deuxième sens de Al-Abd, c'est Al-Abid. C'est le serviteur dans le sens, l'adorateur volontaire d'Allah. Le premier, Al-Abd dans le sens Al-Mu'abbad, c'est ce qu'on appelle Al-Ubudiyyatul Amma. On l'appelle aussi Al-Ubudiyyatul Irububiyyati. C'est-à-dire la servitude générale qui englobe toutes les créatures, les bonnes comme les mauvaises. C'est la servitude à la seigneurie d'Allah. Deuxièmement, on l'appelle Al-Ubudiyyatul Khassa, la servitude particulière, spécifique. On l'appelle aussi l'ubudiyyatu li uluhiyyati. C'est la servitude dans son adoration. Donc c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. À l'image de ceux qui reconnaissent qu'Allah est le Seigneur, cela n'est pas suffisant. Et à l'image de ceux qui reconnaissent cela, alors ils l'adorent seul d'un culte sincère. Ça n'est que la deuxième catégorie qui sera sauvée dans ce bas monde et dans l'au-delà. Non. Donc, le serviteur, on dit ce terme-là, et parfois on entend par ça, et parfois on entend par cela, celui qui a été assujetti à Allah, soumis à lui, de par son essence. C'est le serviteur d'Allah. C'est sa créature. Il avance dans son décret, il ne peut pas en sortir. C'est-à-dire qu'il est soumis à Allah. Allah organise. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui administre toutes ses affaires. Et c'est celui qui gère tout. Et de ce point de vue-là, toutes les créatures sont les serviteurs d'Allah. Les bons parmi eux et les pervers. Les croyants parmi eux et les mécréants. Les gens du paradis parmi eux et les gens de l'enfer. Pourquoi? Parce que c'est leur Seigneur à tous. Leur Maître à tous. Nul ne peut sortir de sa volonté et de son omnipotence. Et de ses paroles parfaites que nul ne peut transgresser, qu'il soit pieux ou pervers. Les paroles d'Allah, quand on dit les paroles d'Allah, ça se divise en deux. Il y a « el-kalimatu el-kauniyya el-qadariyya » les paroles universelles d'Allah. Ça, c'est le décret d'Allah. Ça englobe tout et nul ne peut le transgresser. Tout le monde y est assujetti. Et c'est ce qui est voulu ici. Deuxièmement, الكلمات الشرعية الدينية الكلمات الشرعية الدينية les paroles religieuses.
Ça, c'est le décret religieux. Ceux qui s'y soumettent volontairement sont les croyants et les autres n'y se soumettent pas. Taïf. Ce qu'Allah veut se réalise, même si eux ne le veulent pas. Et ce que eux veulent ne se réalise pas si Allah ne le veut pas. Comme il a été dit, ou comme Allah le Très-Haut a dit dans le verset de Surat Ali Imran, sur la traduction des approximatifs des sens, est-ce qu'il recherche, est-ce autre que la religion d'Allah qu'il recherche, alors que tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre se soumet à lui, volontairement ou involontairement, et vers lui se fera leur retour, cherche-t-il donc une autre religion qu'Allah? À lui se sont soumis de leur plein gré ou mal gré eux, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, et c'est vers lui qu'ils seront ramenés. Ici, il s'agit de quelle servitude? La servitude générale, parce qu'on a dit de plein gré ou mal gré eux. Et cela nous rappelle la parole de l'imam al-Shafi'i, rahimahullahu ta'ala, dans ses vers. وَمَا شِئْتَ كَانَ وَإِنْ لَمْ أَشَأْ نعم وَمَا شِئْتَ كَانَ وَإِنْ لَمْ أَشَأْ وَمَا شِئْتُ إِنْ لَمْ تَشَأْ لَمْ يَكُنْ خَلَقْتَ الْعِبَادَ لِمَا قَدْ عَلِمْتَ فَفِي الْعِلْمِ يَجْرِي الْفَتَى وَالْمُسِنْ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَمِنْهُمْ سَعِيدٌ وَمِنْهُمْ قَبِيحٌ وَمِنْهُمْ حَسَنٌ على ذا مننت وذا خذلت وذا أعنت وذا لم تعن إلى آخر أبياته الجميلة رحمه الله تعالى. L'imam al-Shafi'i mentionnait en poésie: ce que tu veux se réalise même si je ne le veux pas, et ce que je veux ne se réalise pas si toi tu ne le veux pas. Tu as créé les serviteurs dans ta science, c'est-à-dire selon ce que tu as créé les serviteurs selon ce que tu as su. Il parle ici de la prédestination. Ainsi, dans la science, avance le jeune homme comme la personne âgée. Parmi lui, il y a des perdants. Parmi lui, il y a des bienheureux. Parmi lui, il y a celui qui est laid. Parmi eux, il y a celui qui est bon ou bien beau. Lui, tu as accordé tes grâces et lui, tu l'as abandonné. Lui, tu l'as aidé. Lui, tu ne l'as pas aidé. C'est-à-dire que tout ce qui se passe est décrété par Allah Azza wa Jal. Nul ne peut en sortir. Nul ne peut en sortir. Barakallahu fikum. Après cela, l'auteur rahimahullahu ta'ala nous dit: فَهُوَ سُبْحَانَهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَخَالِقُهُمْ وَرَازِقُهُمْ وَمُحْيِيهِمْ وَمُمِيتُهُمْ وَمُقَلِّبُ قُلُوبِهِمْ وَمُصَرِّفُ أُمُورِهِمْ لَا رَبَّ لَهُمْ غَيْرُهُ وَلَا مَالِكَ لَهُمْ سِوَاهُ وَلَا خَالِقَ لَهُمْ إِلَّا هُوَ سواء اعترفوا بذلك أو أنكروه وسواء علموا ذلك أو جاهلوه لكن أهل الإيمان منهم عرفوا ذلك واعترفوا به بخلاف من كان جاهلا بذلك أو جاحدا له مستكبرا على ربه ولا يقر ولا يخضع له مع علمه بأن الله ربه وخالقه. Ibn Taymiyyah tarahimahullah ta'ala nous dit dans ce magnifique passage: il est exempté soit-il le Seigneur de l'univers, leur créateur et leur pourvoyeur. Il est celui qui leur donne la vie et la mort. Il est celui qui retourne leur cœur. Il est celui qui administre leurs affaires. C'est leur Seigneur, ils n'en ont pas d'autre. C'est leur Maître, ils n'en ont pas d'autre. C'est leur Créateur, ils n'en ont pas d'autre. Qu'ils le reconnaissent ou qu'ils le renient, qu'ils le sachent ou qu'ils l'ignorent. Mais les gens de la foi parmi eux le reconnaissent. Ils le reconnaissent, ils reconnaissent leur Seigneur, ils reconnaissent Allah, contrairement à ceux qui sont ignorants de cela et qui le renient par orgueil. Ils s'enorgueillissent sur leur Seigneur et ils ne reconnaissent pas, c'est-à-dire qu'Allah est le Seigneur de l'univers, et ils ne se rabaissent pas à lui, alors qu'ils ont la science, c'est-à-dire dans leur cœur, en réalité, qu'Allah est leur Seigneur et leur Créateur. Ici, c'est un passage très important. Ibn Taymiyyah veut nous enseigner ici qu'en réalité, tout le monde sait qu'Allah est le Seigneur de l'univers. Cependant, certains le reconnaissent et le mentionnent. D'autres, par orgueil, comme des athées et autres, comme Pharaon et autres, disent ils ne croient pas qu'il y a un Dieu comme ils disent. Ils ne croient pas qu'il y a l'existence du Seigneur de l'univers. Alors qu'ils savent très bien qu'ils ne se sont pas créés eux-mêmes et que le néant ne peut créer le présent et le vivant.
فَالْمَعْرِفَةُ بِالْحَقِّ إِذَا كَانَتْ مَعَ الْاسْتِكْبَارِ عَنْ قَبُولِهِ وَالْجَحْدِ لَهُ كَانَ عَذَابًا عَلَى صَاحِبِهِ كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون وقال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون
فنعترف avant ça. Le fait de connaître la vérité, si c'est allié, si cela est allié avec l'orgueil de son acceptation, donc il sait que c'est la vérité, mais il s'enorgueillit face à son acceptation, il le renie, eh ben cela sera un châtiment pour cette personne. On veut nous dire ici, ça ne suffit pas de savoir. Le shaitan savait qu'Allah était le Seigneur des mondes. Abu Talib savait qu'Allah était le Seigneur des mondes, mais ça n'a pas été suffisant. Ça n'a pas été suffisant parce qu'il n'y a pas eu la reconnaissance et l'acceptation de laquelle découle la reconnaissance du droit à l'adoration uniquement pour Allah. Et le fait d'adorer Allah seul sans associé et désavouer le polythéisme et ses adeptes. Barakallahu fikoum. Comprenez bien cela. Ça ne suffit pas de dire Allah est le maître, Allah est le créateur, Allah donne la vie, Allah donne la mort. Ça ne suffit pas. De cette croyance doit découler le fait de reconnaître, alors, vu que c'est mon créateur, alors que c'est lui qui m'a donné, alors c'est lui qui m'a tout donné, alors c'est, vu que c'est lui plutôt qui m'a créé, qui m'a donné ma subsistance, qui m'a fait exister, qui m'a guidé, qui m'a comblé de des bienfaits dont j'ai été doté. C'est lui qui m'a donné mes parents que j'aime. C'est lui qui m'a donné femmes et enfants. C'est lui qui m'a donné argent, gîte et maza et nourriture. C'est lui qui tout, tabaraka wa ta'ala. Vu qu'il en est ainsi, eh ben c'est le seul qui mérite l'adoration. C'est aussi simple que ça. C'est le seul qui mérite l'adoration. Dès lors que je reconnais al-Rububiyya, la seigneurie d'Allah, mais que je renie l'unicité d'Allah dans l'adoration, eh ben cette première reconnaissance ne me servira à rien. Pire encore, ça sera une preuve et un argument contre moi, tant dans ce bas monde que dans l'au-delà. Et la destination de cette personne sera le feu de l'enfer et elle n'en sortira jamais. Voyons ici les exemples qui ont été mentionnés par l'auteur rahimahullahu ta'ala et on finira sur ce passage inshallahu ta'ala. L'exemple de Pharaon. Allah azza wa jalla a envoyé des signes avec son prophète Moussa alayhi salam accompagné du prophète Haroun alayhi salam. Que s'est-il passé? Et ils l'ont nié alors que leurs âmes en avaient la certitude. Par injustice et arrogance, regarde donc quelle a été la fin des corrupteurs. Pharaon sait qu'Allah est le Seigneur des mondes et il sait que Pharaon n'est pas lui-même le créateur de tout. Mais en public, par orgueil, qu'est-ce qu'il dit aux gens? Il dit aux gens, Mada, ma alimtu, lakum min ilahin ghayri. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. Ô Pharaon, ou plutôt, et Pharaon dit, ô ma noblesse, yani les gens rapprochés, les nobles, je ne connais aucune divinité pour vous en dehors de moi. Dans Surat al-Qasas. Ô noblesse, je ne connais aucune divinité pour vous en dehors de moi. Ça, c'est la parole de Pharaon. Est-ce qu'il a vraiment cette conviction dans son cœur? Est-ce qu'il a vraiment cette conviction dans son cœur? Allah Azza wa Jalla nous enseigne et dit qu'ils ont nié alors que leurs âmes en avaient la certitude. C'est-à-dire que dans leur cœur, ils savent qu'ils ne sont pas les créateurs, ils savent qu'ils ne sont pas les vraies divinités d'être adorés, qu'il y a un créateur au-dessus d'eux qui a tout créé. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a deux informations ici. C'est qu'ils ont nié en apparence, mais qu'ils en avaient la certitude intérieurement. Ils en avaient la certitude intérieurement. C'est pour cela
que dans sourate Al-Isra, Moussa alayhi salam a dit à Pharaon, ou plutôt Allah Azza wa Jalla nous dit, wa laqad atayna Moussa tis'a ayatin bayyinat, fas'al bani Israila idh ja'ahum faqala lahu Fir'aun inni la'adhunnuka ya Moussa mas'hura. Nous avons certes donné à Moussa 9 preuves évidentes. Demande donc aux enfants d'Israël, quand il vint vers eux, Pharaon lui dit, je suppose que tu es ensorcelé, ô Moussa. Ça, c'est le comportement de Pharaon. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. Qu'a répondu Moussa alayhi salam? Tu sais parfaitement, il dit, tu sais parfaitement ce que ces gens ont reçu comme révélation. Si ce n'est le Seigneur des cieux, pardon, tu sais parfaitement ce que ces gens ont reçu comme révélation, si ce n'est le Seigneur des cieux et de la terre, clairvoyant. Et moi, je suppose que tu seras détruit au Pharaon. Un instant. Assurément, très certainement, tu as su que n'avait révélé cela, si ce n'est le Seigneur des cieux et de la terre. Si ce n'est le Seigneur des cieux et de la terre. D'accord. Et Mathboura, dans le tafsir, on trouve Ibn Jalal al-Tabari, Ibn Abbas, a dit Mathboura ay mal'ounan maghlouban, maudit et vaincu. Maudit et vaincu. Mujahid al-Qatada ont dit Mathbouran ay halikan, détruit. Quoi qu'il en soit, on retient cela. C'est que Pharaon, bien qu'il disait en public qu'il ne croyait pas que c'était lui la seule divinité, eh ben cela était par orgueil et reniement. Mais en réalité, dans son cœur, il en avait la certitude, comme Allah Azza wa Jal nous l'a mentionné. Un autre exemple dans Sourate Al-Baqarah, قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. Ceux à qui nous avons donné le livre, ils le connaissent. Ils savent que Mohammed est le serviteur d'Allah, mais son messager également. Ils le connaissent comme ils connaissent leurs propres enfants. Et certes, une partie d'entre eux cache la vérité alors qu'ils savent. Donc, ceux à qui nous avons donné la Torah et les évangiles, parmi les moines et les rabbins, les savants, des juifs et des chrétiens, ils savent que Mohammed est le messager d'Allah parce qu'ils en ont les signes dans leur livre. Ils en ont les signes dans leur livre et la mention. Tout comme ils connaissent leurs enfants. Et les Arabes mentionnaient cette figure de style pour dire la certitude. Tu le connais comme tu connais tes enfants. Comme tu connais tes enfants. Naam. Barakallahu fikum. Dans sourate Al-An'am, قال تعالى فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ. Ça n'est pas toi qu'il démente, qu'il renie. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Mais les injustes renient les versets ou les signes d'Allah. Les versets ou les signes d'Allah. Barakallahu fikum. Et ici, il y a une grande leçon, ikhwat al-iman. C'est que la connaissance simple n'est pas suffisante. La connaissance simple, si elle n'est pas suivie d'application suite à la guidée d'Allah, elle sera une preuve contre nous. Qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah nous réforme. Il faut étudier pour tenter d'appliquer. Il faut étudier pour se rapprocher d'Allah. Il faut étudier pour connaître Allah Azza wa Jal et l'adorer. Non pas pour amasser les connaissances. Ça, c'est blâmable et ça sera une preuve contre le serviteur dans le cas contraire, dans ce bas-monde, avant l'au-delà. Qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne et nous réforme. فَإِنِ اعْتَرَفَ الْعَبْدُ أَنَّ اللَّهَ رَبَّهُ وَخَالِقَهُ وَأَنَّهُ مُفْتَقِرٌ إِلَيْهِ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ عَرَفَ الْعُبُودِيَّةَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِرُبُوبِيَّةِ اللَّهِ وَهَذَا الْعَبْدُ يَسْأَلُ رَبَّهُ وَيَتَضَرَّعُ إِلَيْهِ وَيَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَلَكِنْ قَدْ يُطِيعُ أَمْرَهُ وَقَدْ يَعْصِيهِ وَقَدْ يَعْبُدُهُ مَعَ ذَلِكَ وَقَدْ يَعْبُدُ الشَّيْطَانَ وَالْأَصْنَامَ.
ومثل هذه العبودية لا تفرق بين أهل الجنة وأهل النار، ولا يصير بها الرجل مؤمنا، كما قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فإن المشركين كانوا يقرون أن الله خالقهم ورازقهم وهم يعبدون غيره. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل فلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل فأنى تسحرون. ابن تيمية رحمه الله تعالى insiste sur ce point fondamental qui est la distinction entre les croyants et les non-croyants. La distinction entre les gens du paradis et les gens de l'enfer. Elle n'a pas lieu dans le fait de reconnaître l'existence d'Allah et que c'est le seul Seigneur. Non, ça n'est pas ça le point distinctif qui marque la distinction et la différence claire entre les gens du paradis, les croyants, et les gens de l'enfer, les mécréants. Mais le point distinctif, c'est plutôt dans l'adoration et la divinité qu'il a lieu. Il faut reconnaître qu'Allah est seul à mériter entièrement toute l'adoration pour être un croyant. Quant au fait de dire Allah c'est le créateur, Allah c'est le maître, cela a été reconnu par Kuffar Quraysh. Pourtant Allah Azza wa Jalla a envoyé son messager pour leur dire quoi ? Qul ya ayyuhal kafirun. Il disait Allah est le créateur. Pourtant Allah a ordonné à son messager de leur dire: dis oh vous les mécréants. Donc reconnaître qu'Allah est le seul Seigneur, reconnaître qu'Allah est le créateur n'est pas suffisant pour entrer en islam. Il faut qu'il découle de cela, que découle de cela la reconnaissance du droit unique à l'adoration exclusive pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pour preuve, si le serviteur reconnaît qu'Allah est son Seigneur, son Créateur, son besoin face à lui, il reconnaît ici la servitude relative à la seigneurie d'Allah seulement. Et ce serviteur, il peut demander à son Seigneur, se rabaisser à lui, placer sa confiance en lui. Mais il peut lui obéir comme il peut lui désobéir. Il peut l'adorer, il peut adorer le diable, il peut adorer les idoles. Donc cette servitude-là, de se rattacher à la seigneurie seulement, n'est pas suffisante pour faire de toi, pour faire de lui un croyant. Cette seigneurie ne distingue pas les gens du paradis des gens de l'enfer. Et ça n'est pas avec cela que la personne devient croyante. Comme Allah dit dans Sourate Yusuf, sur la traduction des sens du verset, et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Que veut dire ce verset ? La plupart d'entre eux croient en Allah qu'en lui donnant des versets. Qu'en lui donnant des associés. La plupart d'entre eux ne croient en Allah, c'est-à-dire dans la seigneurie. Comme Allah c'est le créateur, Allah c'est le propriétaire, Allah c'est le pourvoyeur. La plupart d'entre eux ne croient en Allah, c'est-à-dire que c'est le Seigneur. Oui, ils croient en Allah. Mais qu'en lui donnant des associés, c'est-à-dire dans l'adoration. Ils disent Allah c'est le Seigneur, mais ils adorent les idoles. Ils disent Allah c'est le Seigneur, mais ils adorent autre qu'Allah. La plupart d'entre eux ne croient en Allah, c'est-à-dire dans la seigneurie. Qu'en lui donnant des associés, c'est-à-dire dans la divinité, dans el-uluhiyya. Donc les polythéistes ont reconnu qu'Allah était le créateur, le pourvoyeur, mais ils adorent autre que lui. Dans Sourate Az-Zumar, la traduction des sens, et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront certes Allah. Donc Kuffar Quraysh reconnaissait qu'Allah Azza wa Jalla était le seul créateur. Est-ce que cela a fait d'eux des musulmans ? Non. Dans Suratu Al-Mu'minun dit: à qui appartient tout ce qu'il y a sur tout, à qui appartient la terre et tout ce qu'elle contient, si vous savez, ils diront à Allah. Dit: ne réfléchissez donc vous pas. Dit: qui est le Seigneur des sept cieux et le Seigneur du trône immense? Ils diront à Allah. Ne craignez-vous donc pas? Dit: à qui appartient la royauté de toutes choses? Et il protège et personne ne peut échapper à sa protection, si vous savez. Ils diront à Allah. Dit: alors comment pouvez-vous être séduit? Ibn Jarir a expliqué Fanna Tusharun en disant: comment est-ce qu'on peut vous faire tomber dans l'illusion et vous faire apparaître un mensonge évident, c'est-à-dire vous l'acceptez ensuite. On vous montre le faux comme étant la vérité et vous reconnaissez cela et vous délaissez le message du prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam, ce à quoi il vous a appelé.
نعم.
وكثير ممن يتكلم في الحقيقة ويشهدها يشهد هذه الحقيقة، وهي الحقيقة الكونية التي يشترك فيها وفي شهودها ومعرفتها المؤمن والكافر والبر والفاجر. بل إبليس معترف بهذه الحقيقة وأهل النار. قال إبليس: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. وقال: ربي بما غويتن لو زينا لهم في الأرض ولوينهم أجمعين. وقال: أريتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لاحتنكن ذريته إلا قليلا. وأمثل هذه من الخطاب الذي يقر فيه بأن الله ربه وخالقه وخالق غيره. وكذلك أهل النار قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. وقال تعالى عنهم: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا. طيب. Donc cette servitude rattachée à la seigneurie ne suffit pas à distinguer les gens du paradis et les gens de l'enfer. Car les polythéistes reconnaissaient cela. Allah est le créateur, le pourvoyeur, mais ils adoraient autre que lui. N'est-ce pas? Et cette réalité qui est rattachée aux côtés de la seigneurie, Naam, beaucoup témoignent de cela. Ibn Taymiyyah lui dit, même le croyant comme le mécréant, le pieux comme le pervers. Et il dit, plus encore, Iblis lui-même reconnaissait l'existence de son Seigneur, reconnaissait que c'était le Seigneur de l'univers. Et même les gens de l'enfer reconnaissaient cela. Quant à Iblis, dans Sourate Sad, la traduction des sens du verset, « Ô mon Seigneur ». Il a dit quoi ?« Ô mon Seigneur ». Il a reconnu la seigneurie de son Seigneur. « Accorde-moi un délai jusqu'au jour de la résurrection ». Il a même reconnu la résurrection. En cela, il était mieux que Kuffar Quraysh, car eux ont renié la résurrection. Dans Sourate Al-Hijr, « Ô Seigneur, du fait de m'avoir égaré, je leur enjoliverai sur terre et je les égarerai tous. » Il a dit encore « Ô Seigneur ». Dans Sourate Al-Isra, « Vois-tu celui que tu as honoré au-dessus de moi, si tu me donnes un délai jusqu'au jour de la résurrection, je prendrai le dessus sur toute sa descendance, si ce n'est une minorité. » Si ce n'est une minorité. Donc tous ces textes nous montrent quoi ? Nous montrent que même le diable a reconnu que le Seigneur des mondes, c'est Allah. Quant aux gens de l'enfer, dans Sourate Al-Mu'minun, ils dirent « Ô notre Seigneur, le décret a pris le dessus sur nous, et nous étions certes égarés. Et lorsque tu les verras comparaître devant leur Seigneur, on leur dira, cela n'était-il pas la vérité? Ils diront, si, certes, ô notre Seigneur. Ça, c'est qui? C'est les gens de l'enfer. On s'arrête sur cela. Je voulais finir le paragraphe, mais de peur que ça ne soit trop long, on va s'arrêter sur cela. On demande à Allah Azza wa Jal de nous faciliter une prochaine occasion pour continuer. Et bien, d'Allah Azza wa Jal, on étudiera la suite du livre Hasbunallah wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahu a'lam wa sallallahu wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal wa na'udhu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم يحيى قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين اللهم نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد أن تشفي والدنا وأن تعافيه وأن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.